C'était avant notre temps. Hein, il y a la maison de la Combe qui est là, maintenant. Donc, c'est je crois que c'est des années 60. Hein.
Oui.
Années 60.
Donc, c'est la photo qui est à l'entrée de l'église.
Oui, c'est ça. Et M. Plaise, il habite là.
Oui.
D'accord, on voit votre maison sur la photo. Ah oui, vous l'avez connue en fonction, l'église.
Oui.
Oui, vous vous en souvenez?
Oui, je me suis marié en 54 ici. Et le temps a passé, quoi.
L'église de Bibal. Une émission proposée par Sophie Pillot avec Flaming Flanert.
Les projecteurs.
Ah, attendez.
Ah, d'accord.
Flaming Flanner, vous êtes le propriétaire de l'église de Bibal, quoi, du presbytère plutôt. Depuis combien d'années?
Depuis plus de 25 ans. On a acheté la maison en 1987. Et on a cherché quelque chose dans la région, et un peu par hasard, on est tombé sur Bibal. Et ça s'est très bien tombé, parce que la grand-mère paternelle de mon épouse est née à Bibal. Mon épouse est née Barbance, ce qui est un nom du pays. Et on a donc eu un coup de cœur pour cette maison, pour le terrain autour, et aussi le site presbytère et église, l'un à côté de l'autre. Ça fait un ensemble joli et significatif.
Et pour vous, je sais que vous êtes pasteur, c'était pas étrange non plus de vous retrouver dans un lieu catholique?
Non, pas du tout. D'abord, nous sommes un couple mixte, ma femme est catholique, et moi-même... Je suis très engagé dans les questions œcuméniques. Je vis à Versailles et c'est une ville bien catholique, comme vous le savez. Et le catholicisme fait partie de mon quotidien, en quelque sorte. Et aussi, en tant que théologien, je me suis beaucoup occupé du catholicisme, de la théologie catholique.
Donc un vrai coup de cœur sur ce lieu et sur l'Église. Attenante.
Oui, parce qu'elle était fermée. Il n'y avait pas de... Les clés étaient ailleurs et évidemment, on devient curieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et un jour, j'ai réussi à obtenir la clé et j'ai vu que l'intérieur de l'église n'était pas délabré, mais avait besoin, disons, d'un coup de pinceau, que quelqu'un s'en occupe. Et évidemment, ça aurait été trop pour moi tout seul. Et je me suis allié avec Madame Pendayès de Bibal, qui s'occupe beaucoup du patrimoine et un peu l'historienne de la région. Et tous les deux, on a fait un tour à tous les paroissiens, entre guillemets, de Bibal, pour leur demander... s'ils étaient d'accord pour créer une association pour la sauvegarde de l'église de Bibal. Et c'était en 1990. Dans notre conseil d'administration aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir aussi des Anglais pour animer, et ça internationalise un peu notre petite association.
Et l'association, justement, vous avez fait des travaux dans l'église? Vous avez donné ce fameux petit coup de peinture?
Oui, et même plus que ça. Les premiers travaux, c'était l'installation de l'électricité, de mettre à jour et, selon les normes. Et ensuite, on s'est attaqué aux clochers, au beffroi, si vous voulez, parce que les cloches ne sonnaient plus. Et ça m'a intrigué en quelque sorte, parce que j'ai eu un passé comme pasteur dans un milieu rural où il y avait toujours une église qui sonnait matin et soir. Donc ça me manquait un peu. Et puis, on a réussi à avoir des subventions pour changer les poutres, la suspension des cloches. Il y a trois cloches. Et avec la même entreprise qui s'occupe des cloches de la Salvetta. Et puis, à partir de 1993, on a pu commencer à faire marcher les cloches, bien sûr électrifiées. Et il y a trois cloches. Malheureusement, la moyenne ne marche plus parce qu'elle est fendue. Mais la petite cloche marche pour sonner le glas. Et la grosse cloche sonne maintenant matin, midi, l'Angélus, et soir. C'est une très jolie son d'ailleurs, en la, donc le bon ton. Et je crois aussi que les habitants de Bibal et autour sont très contents. Ça meuble le paysage.
Merci beaucoup.
Oui, mais c'était très pauvre, hein. C'était pas la grande cloche. Mais si M. Blaise avait été là, parce que je n'ose pas trop manipuler ça. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. C'est le premier, parmi les premiers travaux. C'est ça.
Vous allez nous faire faire la visite, M. Freiner.
Volontiers, oui. Nous sommes ici devant l'hôtel et on voit une partie des anciens meubles. L'hôtel, bien sûr, était poussé jusqu'au fond.
D'accord.
Mais c'est après le Concile Vatican II, comme dans la plupart des églises, l'hôtel a été avancé.
Quelle année, pour se resituer, pour ce qu'on
parle ? Le Concile, c'était entre 1962 et 1965. Et il y avait toute la réforme liturgique qui a bouleversé pas mal de choses. Vous savez, à droite, là, la chaire. Mais malheureusement, c'était le dernier curé, l'abbé Artus, qui avait vu une chaire en marbre en Italie, et il s'est dit « Ah, ça irait bien à l'église de Bibal ». Et il a fait acheter cette chaire qui ne correspond absolument pas au style de l'église. Ça, c'est vraiment un impair. Mais elle est là, elle est sur un roc, on ne peut pas le bouger. Et là-bas, au fond de l'église, vous voyez le reste de l'hôtel d'origine, à droite.
D'accord.
Et puis, il y a un crucifix tout à fait au fond de l'église, je pense avec l'inscription « Inri, Jesus de Nazareth, Rex Judeorum, le roi des Juifs ». Et puis, vous voyez aussi les vitraux qui sont bien sûr aussi de l'époque et qui ressemblent à beaucoup de vitraux dans la région. Au milieu, il y a le Christ, et c'était le corps du Christ. Il ne faut pas oublier que l'Église est construite en même temps que le Sacré-Cœur de Paris. Hein. Il y avait la dévotion du Sacré-Cœur. Et puis, à gauche, vous avez Saint-François Xavier, le jésuite, qui était le compagnon de Saint-Ignace. Sur ce vitrail, il y avait un petit Africain, un enfant, qui embrasse sa robe. Et peut-être, il baptise. Donc, c'était l'effort missionnaire des jésuites. Là, qui avait. À droite, vous savez, Saint-Jean-Baptiste, on le voit bien, avec ses attributs, il y a la coquille qui rappelle le baptême, notamment le baptême de Jésus dans le Jourdain, et il avait cette croix-là avec un petit oripeau, et puis il y a les mains, les trois doigts, qui, comme s'il voulait bénir l'assemblée. Et puis vous avez d'autres vitraux. Hein.
Eux sont tous d'origine, ils ont.
Tous d'origine.
Et sur la
gauche, c'est le Christ qui couronne sa mère. Vous voyez, la Vierge là, avec manteau bleu, oui, qui ressemble un petit peu au drapeau de l'Union européenne. Et petit à petit, on a aussi fait réparer des morceaux qui manquaient. Et puis, il y a une tribune là-haut, avec la place pour pas mal de monde. Et derrière, il y a une très belle rosace. On vient de la restaurer parce qu'il y a le 5 août 2012, il y avait de la grêle, vraiment, c'était affreux, et la rosace a été trouée. Et maintenant, on va mettre une protection extérieure pour éviter des répétitions.
L'histoire de l'église de Bibal est une véritable épopée que M. Fleinert nous conte ici.
Elle a une histoire bizarre. À l'origine, Bibal faisait partie de la Salvetta, de la paroisse de la Salvetta. Mais à la fin du XIXe siècle, les habitants de Bibal et aussi de la vallée du Vior, Bellecombe, La Roche, autre, trouvaient que le chemin jusqu'à la Salvetta était un peu long. Et l'idée est venue, pourquoi pas construire une église pour nous. Et en 1863, un certain monsieur Fraisse, qui habitait Bibal et qui était à la fois agriculteur et instituteur à Pratials, qui avait 7 enfants, il a réuni 40 hommes à 4 heures du soir, comme il est dit dans les documents, et devant un notaire, ils ont pris la décision de construire cette église, et chaque famille devait contribuer financièrement, mais aussi du point de vue travail, donner du travail pour construire une église. Et 9 mois après cette décision, la pose de la première pierre a été faite, donc en 63. Et en décembre 64, le clocher était terminé et on a pu hisser la croix au faîte du clocher. C'était le 8 décembre, donc à l'Immaculée Conception. En tout cas, ils ont bien travaillé. Ensuite, tout ça a déclenché un conflit avec le curé de la Salvetta.
Qui perdait ses ouailles, là.
Qui perdait ses ouailles et aussi une partie de ses revenus. Il s'est opposé vivement. Et il s'est plaint auprès de l'évêque qui n'avait pas donné son accord. Et néanmoins, ils ont continué. Et au bout de 2 ans et demi, peut-être 3 ans, l'église était faite. Elle était là comme on le trouve aujourd'hui. C'est assez incroyable. Et entre-temps, il y a eu des correspondances entre l'évêché et le curé et les responsables de Bibal. Et finalement, l'évêque a dit « Non, moi je ne peux pas du tout accepter cette initiative. Je ne pourrais pas non plus fournir un prêtre pour Bibal. Il nous manque déjà des prêtres, etc., etc. Et il était donc intransigeant. Et à ce moment-là, c'était en 67, je pense, le nommé Fraisse de Bibal, qui était un peu le président de tout ça, il a réuni une poignée d'hommes, comme ils disent, entendant le français, parce qu'évidemment, tous parlaient le patois, et ils se sont rendus à Rodez. Et ils ont été reçus très mal, d'ailleurs, par Monseigneur. Et non, il n'y a pas de question, c'était complètement farfelu et irréaliste. Et dit le document auquel je me reporte, ils se sont mis à genoux devant l'évêque. Et là, il a quelque chose qui s'est passé. Alors, il a même eu pitié de ces braves gens. Et il a dit, oui, bon, mais écoutez, on va voir. Peut-être un jour, je vais venir pour la confirmation des jeunes. Et puis, on verra. Je ne vous promets rien. Et puis, un an et demi après, il est donc venu. Il y a là une histoire cocasse qu'il est venu avec le curé de Salvetta. Et à l'endroit même où il y a une frontière entre la Salvetta et le Bibal, le cheval ne voulait plus avancer. Et il a fallu que Monseigneur et le curé aillent à pied jusqu'à Bibal. Et depuis 1870, Bibal a eu un curé, ou est-ce qu'on l'appelait vicaire, je ne sais pas, ou est-ce qu'il dépendait peut-être quand même un peu de la Salvetta, peu importe. Le premier prêtre s'appelait Weiss, et ensuite il y avait un abbé Fraisse pendant pas mal d'années. C'était justement un fils de la famille Fraisse de Bibal qui avait pris cette initiative.
C'est lui qui avait consacré tous ses enfants d'ailleurs à l'église s'il avait l'autorisation.
Ce qu'il avait dit à Monseigneur. Et effectivement, il a tenu parole, si je puis dire. Car les cinq garçons sont tous devenus ecclésiastiques. Je ne connais pas les noms de tous les enfants. Il y avait un Marcelin qui est devenu prêtre ailleurs, un Célestin aussi, et un Alphonse Hilarion, qui était la gloire de la famille, parce qu'il est parti assez tôt en Nouvelle-Calédonie. Et il a été nommé à l'âge de 38 ans évêque de Nouméa. Et il est resté là-bas, mais, dit-on, de temps en temps, il revenait en France. Ce qui faisait grande sensation, c'est qu'il avait porté un domestique, Canac. Et la première fois, le Bibalais avait vu un Canac.
Et c'est son frère, donc, qui s'occupait de Bibal.
Oui, c'était un Frédéric, je crois, Frédéric Fraisse, qui était curé ici pendant 33 ans. La paroisse de Bibal est donc restée une paroisse jusqu'à 1958. À ce moment-là, c'est le curé de l'époque, qui s'appelait Artus, qui, ou bien il est décédé, ou bien il est parti en raison d'âge, je ne sais pas. Mais jusqu'à 1958, le presbytère a été habité par un prêtre. Ensuite, Bibal et Blozac ont fusionné, et le curé habitait le presbytère de Blozac. Il y avait un abbé Salvignac qui lui a succédé et qui est parti en 1981. C'est pas si loin que ça. Mais le presbytère était vide et c'était une famille de Rodez, M. et Mme Guy, qui l'avait acheté. Voilà, c'est en gros l'histoire de l'église de Bibal et de la paroisse du presbytère qui a été construite en 1871 à peu près, avec le cimetière, donc juste après la construction de l'église.
On va peut-être aller faire un tour dans l'église.
Volontiers. Vous voyez, c'est pas petit. Hein.
Ah, il avait peut-être aussi avec lui, il n'était peut-être pas tout seul, si.
Une gouvernante, peut-être.
Oui. Hein,
pour faire le pote.
Allez-y, allez-y.
Ah.
avant d'aller dans la nef, on peut regarder les deux autels latéraux. Il y a à droite de l'autel principal, il y a la chapelle de la Sainte Vierge. Il y a deux statues, l'une vraiment d'origine, qui montre la Reine du Ciel avec l'enfant Jésus. Et puis, il y a la statue de la Vierge de Lourdes, en quelque sorte. Hein.
Mais sans... C'est écrit, d'ailleurs, Notre-Dame de Lourdes, juste en
c'est
dessous.
Écrit,
on ne peut pas les confondre.
On ne peut pas les confondre, mais elle est sans l'enfant. Je ne dirais pas que ce soit une hérésie, mais enfin, dans la tradition chrétienne, Marie est toujours avec l'enfant Jésus. Donc, ça reflète une mentalité de l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que les apparitions de Lourdes, c'était en 1857.
Ah oui, donc c'est juste avant...
Bernadette Soubirou, hein, c'est juste avant. On vivait dans cette ambiance de dévotion. Et puis à gauche, c'est la chapelle de Saint-Joseph.
C'est de Saint-Joseph, non ?
Non, c'est Saint-Antoine de Padoue.
Celui qui retrouve les clés.
On dit, voilà, il est devenu le saint des objets perdus. Bon, je crois que ça a été assez folklorique, c'est moins prononcé aujourd'hui. Il faut savoir que si on prie un saint, ce n'est pas pour obtenir ceci ou cela, c'est pour obtenir son intercession.
Oh, on a Sainte-Émilie de Roda derrière nous.
Et oui, il ne faut pas oublier Sainte-Émilie de Roda, la sainte locale de Villefranche de Rouergue, qui aussi au XIXe siècle avait fondé des écoles, et elle est là avec un petit enfant, un petit garçon et une petite fille, bien sage, qui la regarde.
Pourtant, elle a été canonisée tard, Sainte-Émilie de Roda, non ?
Je ne peux pas
vous dire. Je me demande si elle n'a pas été canonisée après la construction de l'église.
Si, bon, si.
C'est
si.
Ça, hein.
Ah, oui,
c'est 1950 ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, ils n'ont pas tous comme Jean-Paul II, hein, ouais. Quelques années après sa mort.
Donc elle a dû être ajoutée après, vers les années 50, vers 1950.
Non, avant. Bien avant, je crois. Peut-être elle a été seulement béatifiée au début, hein, ce qui justifie sa présence là. Et en retournant, on voit Sainte-Thérèse de Lisieux, hein, et Sainte-Jeanne d'Arc. On mêle la religion et patriotisme aussi dans les temps troubles, hein, parce que c'est quand même une blessure, la perte d'Alsace-Lorraine. Hein, c'est là, Jeanne d'Arc, elle représentait, elle incarnait un peu la France. À l'opposé, là, l'autre côté, vous avez Saint-Amand. Et ça, ça fait bien à Véronais. Hein. Il y a l'église Saint-Amand à Rodez, et vous trouvez beaucoup de Saint-Amand dans les églises ici. Et devant ce vitrail, vous avez le curé d'Ars. C'est aussi très fréquent de rencontrer sa statue. Et à côté, il y a quand même Jésus, avec l'inscription « Venez à moi ». Et Jésus, il montre son cœur. Hein. On est en plein culte du cœur de Jésus à l'époque. Parce que c'était la religieuse Madeleine Marie à la Coque, à Paris le Monial, qui, autour de 1660, a eu une vision du cœur de Jésus qui saigne et qui, en même temps, représente l'amour du Seigneur. Ça a touché une certaine sensibilité et qui a été ranimée au XIXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez le cœur de Jésus sur ce vitrail et sur ces statues. Voilà, je crois que c'est pour... Non, je voudrais aussi vous montrer la sacristie.
Vous pourriez presque faire un musée, vous avez des habits.
Alors, on a des habits, comme vous dites, ce sont donc des chasubles qui ont été gardés et qu'on a mis sous protection, parce qu'il y a malheureusement aussi parfois des souris qui aimeraient bien grignoter dans le tissu. Et là, il y a une jésuple magnifique, mais sur un fond rouge, et le devant est doré, et c'est vraiment une pièce de musée, comme vous dites, parce que ce n'est plus la mode. Et là, c'est une jésuple le plus moderne. Hein.
Oui, une jésuple violette qu'on reconnaît.
Mais là aussi,
c'est là, qui est dans
des couleurs liturgiques. C'est une jésuple rouge, et le rouge, c'est la couleur de Pentecôte, le feu de l'esprit qui descend sur les apôtres, ou bien le rouge symbolise le sang du premier martyr chrétien, Saint Étienne. Et Saint Étienne, c'est le 26 décembre. Ils ont les deux jours où on utilise,
Où
on pourrait la mettre. Hein. Et puis il y a noir pour les sépultures. Et vert, c'est pour le temps de l'Église, c'est-à-dire entre le Pentecôte et l'Avent. Donc on a tout. Bon, ça c'est. Et là, vous avez un crucifix de procession que les enfants portaient devant. Au jour de grande fête. Bon. Voilà, on ferme ici.
Ouais.
Ben, c'est terminé là ?
C'est fini.
Comme je peux éteindre. Voilà.
Et du coup, là, on la referme, l'église. Elle est fermée en ce moment ou elle est ouverte de temps en temps ?
Non,
elle est
toujours fermée. Nous sommes là.
C'est vous qui l'ouvrez.
Pas automatiquement, mais on en était. Le matin, j'aime bien ouvrir l'église. Et puis, la vue est imprenable, comme le disent les agences immobilières. Hein. Vous voyez là, aujourd'hui, c'est un peu brumeux, l'horizon un peu brumeux, mais il arrive qu'on voit les Pyrénées. Et on va voir 14
clochers. L'église de Bibal continue de vivre aujourd'hui grâce à l'association des Amis de l'Église qui organise régulièrement des concerts et en particulier lors du Festival des Deux Rives au mois d'août. C'était l'Église de Bibal, une émission proposée par Sophie Pillot avec Flaming Flanert.
C'est moi qui m'en occupe un peu.
Donc il faut aller vous voir dans votre maison, celle qu'on voit donc sur la photo, qui est comment on vous trouve. Si je suis un touriste, comment je fais pour vous trouver ?
Ah, c'est pas affiché. Il faut être dans le circuit, il faut savoir. On peut toujours téléphoner à M. Blaise.
Ouais.
Mais enfin, il ne faut pas que tous les jours, il y ait du monde.
Ouais.
En fait, on demande dans le village où est M. Blaise.
Ah oui, ça, il est connu.
Ouais.
Il est connu.
Ah oui. Bon, écoutez, je vais vous laisser.
Voilà. Et merci d'être venu.